Donc le contexte, c'est la suite du parcours d'Abraham. Abraham, c'est notre père dans la foi. Donc en fait, c'est très important ce qui nous est dit sur l'appel d'Abraham et sa réponse à Dieu, parce que ça éclaire tout ce que nous, comme croyants, on est appelés à vivre. Il est le père des croyants. Donc vous vous souvenez, au chapitre 12, on a entendu l'appel d'Abraham par Dieu. Dieu qui lui disait « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Or, Abraham est l'époux de Sarah qui est stérile, donc pas d'enfant. Pas d'enfant, la bénédiction avec une descendance, et grande nation et pas d'enfant. Bon, on en est là. Et on passe au chapitre 15, donc un peu plus loin. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham mit sa foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis le Seigneur lui dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, tes descendants seront des émigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse, tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. En ces termes, à ta descendance, je donne le pays que voici. Alors, je pense que vous n'avez pas tout compris. On va l'expliquer calmement. Voilà. Qu'on revient sur le fait que Abraham est donc le deuxième personnage de la Bible avec qui Dieu fait une alliance. C'est un homme qui est donc de la descendance de Noé. Le premier, c'était donc Noé, dont on a déjà parlé, avec qui Dieu avait fait une alliance universelle, éternelle, de paix, de miséricorde, et donc une continuité. Dieu est fidèle et il fait une nouvelle alliance avec quelqu'un d'autre qui est son descendant, à savoir Abraham, pour faire de lui le père d'une multitude de croyants. Ça, c'est la promesse que Dieu fait. Et en fait, dans ce qu'on appelle le cycle, c'est-à-dire dans l'ensemble des histoires concernant Abraham dans le livre de la Genèse, il y a 2 récits d'alliance. Là, on a entendu le premier l'année prochaine. Si vous êtes sage, vous aurez le deuxième. Bon, là, on est au chapitre 15, il y a une deuxième alliance au chapitre 17. Dans ce qu'on a lu, dans ce que je vous ai lu, donc le chapitre 15, il y a en fait deux parties dans le texte. On va faire un tout petit peu de littérature, une minute. Il y a une première partie où il y a une promesse de fécondité. Dieu se présente, il annonce une récompense. Abraham se plaint, il n'a pas d'enfant. Dieu lui promet une descendance nombreuse et donne un signe. C'est quoi le signe? Les étoiles dans le ciel, compte-les si tu peux, tu auras une descendance aussi nombreuse. Bon. Et Abraham croit en Dieu qui lui en reconnaît le mérite. C'est la première partie du texte. Et la deuxième, c'est la promesse d'une terre. Une fois que tu auras un peuple, tu auras une terre, hein, le don d'une terre. Abraham demande un signe, et là il y a un autre signe un peu particulier, qui est un sacrifice que Dieu demande et qu'il consume. Voilà. Puis à la fin, donc, il conclut l'alliance et promet la terre pour la postérité, pour la descendance d'Abraham. Donc on va regarder la première partie d'abord. La parole du Seigneur est adressée à Abraham dans une vision et commence par lui dire « Ne crains pas, ne crains pas, n'aie pas peur ». Ce qui est très intéressant, c'est que ça revient de nombreuses fois dans la Bible, « N'aie pas peur ». D'ailleurs, Jésus lui-même le dira, « N'ayez pas peur ». Et on l'a ça régulièrement dans la Bible comme ce qu'on appelle un oracle, une annonce prophétique de salut. Quand Dieu vient et qu'il veut sauver, il commence très souvent par dire « N'aie pas peur, ne crains pas ». Par exemple, on a ça dans le livre du prophète Isaïe, « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai sauvé, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » C'est très beau d'ailleurs, parce qu'on pourrait tous la prendre par cœur, cette parole, « Ne crains pas, n'aie pas peur, tu appartiens à Dieu. Voilà. Tu appartiens à Dieu, n'aie pas peur. Voilà. Tu n'es pas seul au monde, au milieu des tumultes et de toutes les difficultés, intérieures ou extérieures, tu appartiens à Dieu, n'aie pas peur. » De même, quand l'ange Gabriel apparaîtra à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle va porter un enfant, le sauveur, il commence par lui dire « Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas concevoir et enfanter un fils et tu le rappelleras du nom de Jésus. » Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». Donc là aussi, c'est une annonce du salut. Donc c'est beau, peut-être qu'il faut l'entendre pour nous-mêmes. « Ne crains pas, n'aie pas peur, le Seigneur s'occupe de toi, tu es en chemin de salut. » D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois dans la Bible où Dieu dit une parole en s'adressant à une personne directement par son nom. Le nom, dans la Bible, c'est la personne, ce n'est pas du tout un détail. Il y en a qui ont fait la démarche ces jours-ci, de demande d'entrer en catéchuménat. Qu'est-ce qu'il a fait ces jours-ci? Et on commence par vous dire, quel est votre nom? Et ensuite, que demandez-vous? Voilà. Parce qu'en fait, le nom, c'est la personne. Dans la Bible, c'est très important, le nom. Voilà. Et Dieu, quand il s'adresse à Abraham, il lui dit « Ne crains pas Abraham ». Il lui parle. Voilà. C'est une relation personnelle que le Seigneur veut avoir, pas simplement avec le peuple, mais avec chacun et chacune d'entre nous. La chance qu'on a, c'est de savoir que Dieu veut une relation personnelle depuis Abraham avec tous les croyants, chacun des croyants. Voilà. Et puis, donc, il lui promet une descendance au cours de cette vision. Dieu réitère la promesse qu'il a déjà faite à Abraham d'une descendance. Il l'a déjà faite trois fois. Vous avez les citations là sur le papier. Genèse 12, « Je ferai de toi un grand peuple ». Un peu plus loin, « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays ». Et puis, chapitre 13, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. » Mais Abraham ne voit toujours pas de descendance, et donc il connaît le retard dans l'accomplissement. Dieu a promis quelque chose, et Abraham ne le voit toujours pas. Et ce retard, en fait, ça pourrait créer une forme de doute, en disant, enfin, Dieu, c'est pas possible, c'est pas vrai ce que tu m'as dit. Alors que là, en fait, on comprend que ça va faire rentrer Abraham dans l'espérance, dans la foi, dans l'espérance. Et alors, le Seigneur réitère sa promesse, hein. Regarde, le ciel et compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta descendance. La promesse d'une descendance, c'est donc la promesse faite à Abraham de donner la vie, ce qui rappelle que Dieu est le créateur de notre existence, c'est lui qui donne la vie, et que non seulement il est le créateur, mais il nous donne de donner la vie. Ceux qui sont parents, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, savent la beauté de pouvoir être associé à l'œuvre de vie du créateur, de Dieu lui-même. Et donc Dieu réitère sa promesse, et ce qui est très beau, c'est la réponse que Abraham fait en réponse à la parole du Seigneur, Abraham eut foi dans le Seigneur, il y a une petite coquille là, Abraham eut foi dans le Seigneur qui le lui compta comme justice. Alors, il eut foi, il a cru dans le Seigneur. C'est pas simplement un petit événement, ce jour-là, il a cru, mais ça dit quelque chose comme une attitude permanente d'Abraham dans la foi, hein, confiance absolue accordée à une promesse qui semble complètement irréaliste, puisqu'il est âgé et que Sarah est stérile. Mais le texte nous dit que Dieu considéra qu'il était juste, c'est-à-dire qu'il fait la juste réponse, la juste attitude intérieure face à la promesse qui est faite, quoi, que Dieu lui fait. Il a le comportement que Dieu attendait de lui. Il est juste dans sa relation avec lui. Saint Paul, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans la lettre qu'on appelle la lettre aux Romains, commentera ce petit texte-là pour montrer que c'est la foi qui nous sauve et non pas l'application de la loi. Il y a une petite tentation, parfois même chez nous, quand on demande le baptême ou un sacrement, on dit « quelles sont les règles qu'il faut que je respecte ?» Pas très longtemps, il y a une fille qui se préparait au baptême et qui vient de me voir et qui me dit « alors moi, je veux savoir, les règles, c'est ça, et si je sors des règles et que, par exemple, j'ai un enfant en dehors du mariage, est-ce que je pourrais être baptisé ?» Je ne suis pas là pour te donner des règles. C'est pas le but du bon Dieu, c'est pas de nous donner des règles auxquelles il faudrait qu'on se conforme pour être des bons soldats. C'est pas comme ça que ça marche. Ce que Dieu veut, c'est une relation en vérité de nous avec lui. Alors, après ça, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, parce qu'une relation en vérité d'amour envers lui, elle passe par le respect de la vérité des choses que nous indique la loi. Vous voyez ? Mais être chrétien, c'est pas d'abord mettre en pratique une loi, c'est d'abord rentrer dans une relation de confiance envers Dieu. C'est ça qui nous est dit à travers cet épisode de l'alliance avec Abraham. Et c'est ce que commente saint Paul. Alors je lis le texte, c'est un petit peu long, mais c'est très beau. « Ce n'est pas par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de la justice de la foi. » C'est donc, c'est pas parce qu'il a observé une loi qu'il a eu une descendance, c'est parce qu'il a cru en Dieu. « Abraham, notre père à tous, entre parenthèses, tous... Paul, il est juif, mais il comprend que c'est pour tous les croyants, donc y compris les païens qui deviennent croyants, chrétiens. Abraham, notre père à tous, notre père devant celui auquel il a cru, espérant contre toute espérance. C'est une expression assez originale, très belle. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'une multitude de peuples, selon qu'il lui fut dit. Telle sera ta descendance. Donc la descendance d'Abraham, on comprend à ce moment-là que ce n'est pas simplement la descendance charnelle, hein, mais tous ceux qui croient, comme Abraham et à sa suite. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort, il avait quelques cent ans, et le sein de Sarah mort également, appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Très beau ça, hein ? Il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi cela lui fut compté comme justice. Or, quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, ce n'est pas pour lui seul, elle nous visait, nous également, nous à qui la foi doit être comptée. Nous qui croyons en celui qui ressuscita d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Il est moins un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, mais on comprend que, en fait, l'enjeu, c'est notre propre foi, sûr que ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour l'accomplir. Dieu avait promis à Abraham des bénédictions pour lui et pour toutes les nations. Abraham a cru en ces bénédictions comme des signes de l'amour de Dieu pour lui et pour les autres. Et donc, c'était déjà appuyé sur la foi qu'il avait quitté son pays, sa parenté, la maison de son père, comme l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et devenir une seule chair avec elle. Donc, le juste est celui qui est uni à Dieu par une foi en acte. Alors avant de continuer, je vous propose un petit exercice, une minute. Tâchez de faire mémoire dans votre histoire de moments où vous avez cru en Dieu, c'est-à-dire vous avez décidé de croire que Dieu existait et s'occupait de vous. Ce que vous comprenez, c'est que la foi, c'est pas uniquement un sentiment. Ah, j'ai senti. Il y a un moment où c'est une décision. Abraham, il n'a aucun signe tangible que ce que Dieu lui dit en lui montrant les étoiles du ciel, en disant « t'as une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel », c'est vrai. Il n'a aucun signe tangible. Il a simplement décidé de croire que la parole de Dieu était vraie, qu'elle s'accomplirait. Et vraisemblablement, les uns et les autres, si vous êtes là aujourd'hui, il y a un moment où vous avez décidé de croire, alors sur des éléments qui vous avaient aidé à ça, des rencontres, peut-être des signes, des sensations, des événements qui vous ont marqué, vous avez compris que Dieu s'occupait de vous, quoi. Mais il y a un moment, sans doute, dans votre vie, peut-être, où vous avez déjà eu l'occasion de décider de faire confiance à Dieu. Ça va ? Alors, je vous propose d'y réfléchir une minute pour s'en souvenir, parce que c'est beau. Je peux vous donner un tout petit témoignage personnel. À une époque où j'étais étudiant, j'avais un doute en début d'année pour savoir ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce qu'il fallait que je prenne plus d'UV pour pouvoir terminer ma licence de théologie, ou est-ce que je faisais ce qu'on m'avait indiqué, mais je terminerais pas, donc il me faudrait faire un an de plus. J'étais un peu perdu. Alors, j'en parle à mon petit groupe en communauté, je leur dis, priez pour moi, parce que je suis un peu perdu, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, il faut que le Seigneur m'éclaire, parce que vraiment, je ne sais pas. Et on prie, et il y en a un qui ouvre sa Bible, et qui lit dans le livre de Ben Sirac le Sage, « Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi, ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces, médite ce qu'on t'a ordonné de faire, tu n'as pas à te préoccuper des choses plus compliquées, ne sois pas curieux de ce qui te dépasse, ce que tu as déjà à enseigner est au-delà des capacités de l'esprit humain, leur orgueil a égaré bien des gens. » J'ai dit, ah, c'est hyper clair, j'ai pas besoin de faire de nœuds au cerveau, je fais exactement ce qui m'a été demandé, et je suis à ma place, et j'obéis. Et alors, c'est les moments simples où tu dis, ok, je demande au Seigneur, j'écoute, et d'ailleurs, j'obéis, et je crois que c'est la parole de Dieu pour moi. Et effectivement, ce que ça produit, c'est la paix, voilà, c'est bien, je fais ce que Dieu me demande, et je crois que c'est ce qu'il me demande, et après, je vis en paix et j'avance. Alors, c'est un exemple tout simple, mais en fait, on est amené à le mettre en pratique très souvent. Et je pense en particulier à vous qui demandez un sacrement. Il y en a qui préparent le baptême. Alors, qu'est-ce qu'ils vont sentir pendant le baptême ? Baptême par immersion. On dit, waouh, ça va être un truc. Il y a des gens qui sortent de là et qui disent, j'ai rien senti. Eh bien, ça n'est pas grave. Parce que le but, c'est pas de sentir quelque chose, c'est sentir de l'eau. Vous êtes déjà passé à la piscine, donc ou à la douche, bon, rien de neuf, bon. Et donc, ce que vous allez sentir, peut-être que vous allez sentir une grande émotion ce jour-là, peut-être pas, mais vous serez appelé à avancer dans la foi, en la certitude du don que Dieu vous fait au jour de votre baptême. Il y a un signe qui est beau. Moi, j'aime beaucoup les baptêmes par immersion, c'est magnifique. Mais au-delà du signe perceptible, il y a un don qui, par définition, n'est pas perceptible. Le don qui fait de nous des enfants de Dieu par le baptême, il n'est pas mesurable. Je ne le sens pas. Bon. Moi, comme prêtre, je célèbre la messe tous les jours. Je prends du pain dans un tiroir de la sacristie, bon, et après avoir prié l'Esprit Saint comme Jésus me le demande et dit les paroles de Jésus, je dis « ceci est mon corps ». Excusez-moi, mais je n'ai pas la preuve complète que ce que je dis, c'est vrai. Parce que le signe que j'ai, c'est un peu de pain qui n'est pas très lourd, qui n'a pas beaucoup de valeur énergétique. Et je crois, parce que Jésus l'a dit, que c'est son corps. Vous voyez ? Et donc là, je suis dans la foi. Grâce à Dieu, il y a un moment où j'ai fait une expérience sensible qui m'a quand même profondément marqué, la présence du Seigneur. J'ai senti qu'il se passait quelque chose et j'étais très ému. Ça m'est arrivé une fois, le jour de mon ordination. J'ai pleuré toute mon ordination comme prêtre. Bon, c'est pas très pratique d'ailleurs. Voilà. Mais le reste de ma vie, ça fait 33 ans que je suis prêtre, je ne sens rien quand je célèbre la messe. Simplement, je sais et je décide de croire que Jésus est là. Vous voyez ? Et donc la foi, il y a un moment où c'est une décision de croire que la parole de Dieu est vraie. Parce que Dieu est Dieu. Et que, voilà, il a parlé, et qu'il parle par son fils. Après, je peux, qu'on disait la dernière fois, vérifier que j'ai bien compris que c'est Dieu qui parle et pas mon imagination. Vous voyez? Bon. Et donc j'ai le droit aussi d'exercer mon intelligence pour dire comment est-ce que Jésus peut être présent sous un peu de pain. Enfin, j'ai quand même besoin de comprendre. On aura une séance sur la messe. Donc, je vous rassure, on en reparlera. Mais il y a un moment, de toute façon, on est appelé à exercer la foi en disant « Seigneur, je décide de croire ». C'est intéressant parce que c'est notre espace de liberté. Vous voyez, Dieu ne nous oblige à rien. Dieu ne s'impose pas. C'est très intéressant ça. Que la foi, c'est l'espace de liberté que Dieu nous donne pour qu'on rentre en relation avec lui. Ceux qui sont en couple le savent, il y a un espace de liberté nécessaire pour construire une vie de couple, c'est-à-dire pour pouvoir dire à l'autre « je t'aime et j'ai confiance en toi ». Mais la confiance, c'est aussi une décision dans un espace de liberté dans la relation. Je ne sais pas le dire mieux, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais la foi, c'est de cet ordre-là. Je crois, Seigneur, que tu m'aimes et que ce que tu me dis est vrai, que ce que tu me demandes est bon parce que tu m'aimes, même s'il y a un certain nombre de fois où je ne comprends pas, bon, comment tu me conduis, voilà, t'as un plan meilleur pour moi que ce que j'imaginais, pourquoi est-ce que Dieu fait attendre Abraham pendant 25 ans avant de lui donner le fruit de la promesse? Sans doute pour éprouver la confiance d'Abraham en Dieu. Et nous aussi, parfois, on est un peu étonné parce qu'on a prié, puis on n'a pas immédiatement le fruit de notre prière. On n'est pas exaucé tout de suite, quoi. Alors c'est parfois une épreuve, hein. Il faut. Bon. Mais c'est sans doute un appel à mettre notre confiance en Dieu et continuer à croire en lui, espérant contre toute espérance, comme le dit saint Paul. Voilà, ça c'est la première partie donc de ce texte sur l'alliance. Ensuite. Dieu dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Vous vous rappelez, c'était le lieu de départ du père d'Abraham qui s'appelle Terah, qui avait déjà migré d'Ur en Chaldée pour Haran et ensuite en terre de Canaan. Voilà. Et Dieu renouvelle sa promesse de lui donner une terre, comme il l'avait déjà fait d'ailleurs. Et il y a un signe, alors un signe un peu étonnant, nous on n'est pas du tout habitués à ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Il y a un rite ancien qui consiste, quand on fait une alliance entre deux personnes ou deux peuples, souvent il y a un fort et un faible, voilà, c'est des alliances entre des peuples, hein. Toi le fort tu me protèges et moi je te sers, hein, c'est ça. Et pour que ce pacte entre nous il soit scellé dans une alliance, on prend des animaux, on les coupe en deux, on marche au milieu sur la route entre les moitiés d'animaux et on dit, si celui d'entre nous qui n'est pas fidèle à la promesse qu'on vient de se faire, qui lui arrive ce qui vient d'arriver aux animaux. Ça va ? Calme un peu. Bon, c'est un rite d'alliance. Et là, c'est ce rite d'alliance que Dieu propose hein, à Abraham. Et ce qui est amusant, c'est qu'il nous a dit qu'un four brûlant, fumant, passe au milieu des moitiés d'animaux, des animaux, des victimes sacrifiées. Ça veut dire que le four, évidemment, ce feu, c'est Dieu lui-même. Et donc, Dieu seul passe, alors que dans un rite d'alliance, on y passe tous les deux. C'est-à-dire que Dieu seul s'engage, vraiment. C'est Dieu qui pose un acte d'engagement personnel et solennel vis-à-vis d'Abraham. Et le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. Et alors, il nous a dit qu'il y a une torpeur, il y a un sommeil qui tombe sur Abraham et qui rappelle, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le sommeil qui tombe sur Adam, dont Dieu retire une côte pour faire Ève. Et donc, on est sur une lecture allégorique hein, de ce texte sur Abraham. De même que Adam était tombé dans un profond sommeil pour faire naître, pour que Dieu fasse naître de son côté sa femme, de même, Abraham entre dans un sommeil pour que naisse du sein d'Abraham tous ceux qui croiront, hein, toute sa descendance, c'est-à-dire nous, toute sa descendance dans la foi. Voilà, bon, c'est une allégorie. Et puis, donc, à la fin, après le sacrifice, Dieu dit, à ta postérité, je donne ce pays. C'est un présent, d'ailleurs, c'est pas un futur. La promesse est déjà réalisée. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là, qui est peut-être un petit peu compliqué, mais en fait, fait référence aussi, j'en fais une petite parenthèse, Parce qu'il y a eu quelque chose qui est un peu obscur à première lecture. Quand Dieu donc fait ce propose ce sacrifice, il dira parmi tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. C'est un sujet dont on reparlera les deux prochaines fois. C'est la descendance d'Abraham sera esclave en Égypte, sous la férule de Pharaon, pendant 400 ans. Et donc c'est déjà annoncé dans ce texte-là. Et voilà, et ils sortiront avec de grands biens. Effectivement, il y aura la libération par Dieu qui suscite Moïse pour quitter l'Égypte et traverser la mer Rouge. Donc ce sera le sujet la prochaine fois. Mais c'est déjà annoncé ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu annonce, d'une certaine façon, qu'il sera le sauveur et que différentes générations ont lu ces textes-là. Ce qui est un tout petit peu subtil, c'est que nous, on a un texte fini, imprimé. Or, ce texte, il est le fruit d'une tradition orale qui s'est enrichie au fur et à mesure des générations et des siècles. Ça, on a un peu de mal à l'imaginer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire d'Abraham, on se l'est racontée de génération en génération. Et qu'on a rajouté, vraisemblablement, dans l'histoire d'Abraham, ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la libération d'Égypte. Parce que dans cette période de grand trouble qui est l'esclavage en Égypte, on a besoin de se souvenir que Dieu a promis un peuple nombreux, ben ça y est, on l'est, puisqu'on est très nombreux en Égypte, on est tellement nombreux que Pharaon a fait de nous ses esclaves, et il nous a promis une terre, donc on garde dans notre servitude sous la férule de Pharaon, à l'esprit, la promesse que Dieu a faite et qui va s'accomplir. Donc on a une première expérience là. Et puis, alors c'est plus subtil, mais ce texte-là, il a servi aussi à une autre période de l'histoire d'Israël, des siècles plus tard, le peuple d'Israël, n'ayant pas été fidèle à l'Alliance, va être déporté et exilé à Babylone. Et dans une situation dramatique où il aura tout perdu. Il aura perdu sa terre, que Dieu a donnée à Abraham. Il aura perdu le temple où Dieu était présent. Et il aura perdu le roi. Et où est-ce qu'il va être exilé? À Babylone. Babylone, c'est où? Eh bien, c'est Ur en Chaldée. C'est la même région. Donc c'est très intéressant. Et dans le texte, il y a une petite mention, on dit « Tes générations ne reviendront ici qu'à la quatrième génération ». Quatrième génération, ça ne peut pas être ce qui était dit juste avant sur 400 ans dans un pays étranger, parce que 400 ans, ça ne veut pas être 4 générations. Par contre, 4 générations, vraisemblablement, c'est l'histoire de la situation en exil. Là, il y a pu avoir 4 générations. Et donc, ce texte-là, sur la promesse que Dieu a faite à Abraham d'une descendance et d'une terre, il a aussi été éclairant dans une période d'exil, donc de très très grande détresse du peuple, qui est conscient de son infidélité et qu'il a tout perdu à cause de son infidélité. Et Dieu lui dit, en tout cas, Dieu l'enseigne à travers l'histoire d'Abraham, écrite donc des siècles avant. Donc, vous voyez, c'est étonnant, j'avais hésité à vous le dire, mais je pense que c'est intéressant de vous le dire, c'est qu'un texte comme ça, il a servi à des générations successives de croyants, et on en a la trace dans le texte, du point de vue littéraire, critique littéraire. Parce que c'est un truc auquel nous, on n'est pas très habitué. Un texte biblique, en fait, il a été enrichi au fur et à mesure des générations de croyants qui se sont appropriés cette parole et qui en ont mis la trace dans le texte. Et donc, il est intéressant pour nous aussi, aujourd'hui, Dieu promet, à travers Abraham, sa fidélité à nous pour qu'on soit un peuple béni par lui, en pleine croissance, et qu'on ait une terre, c'est-à-dire des lieux où on est béni par le Seigneur. Je n'en dis pas plus, mais c'est intéressant de le garder, de comprendre que ça a servi au cours des générations. Une autre petite mention qui est très belle à propos d'Abraham, c'est qu'à plusieurs reprises dans la Bible, il est question d'Abraham comme d'un ami de Dieu. Par exemple, pour l'apôtre Saint Jacques, dans le Nouveau Testament, cette amitié est née d'abord d'un don gratuit de Dieu, mais aussi de la foi d'Abraham. Jacques écrit, chapitre 2, verset 23, « Abraham crut à Dieu, cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Cette foi d'Abraham fait de lui un ami de Dieu. Et donc l'alliance de Dieu avec Abraham est une amitié qui se tisse entre le Seigneur et le Père des croyants. Alors, je ne développe pas plus, mais c'est intéressant parce qu'il est question d'amis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que ce qui se vit dans l'alliance de Dieu avec Abraham, en fait, se réalisera dans l'alliance que nous vivons avec le Christ Jésus. Le Christ déclare que sont pleinement fils d'Abraham, non seulement ceux qui descendent par le sang, les Juifs, mais aussi ceux qui croient en la vérité de la parole. Vous allez voir dans Saint Jean, chapitre 8, qui accueille le salut. Et puis même quand il rencontre le publicain Zachée, il dira « Le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Et donc la bénédiction faite à la descendance d'Abraham se réalise, s'accomplit par Jésus. Et on en a quelques petits signes, j'en ai noté 5. Le fait que Dieu s'engage de façon unilatérale, c'est Dieu seul, on l'a dit tout à l'heure au moment de l'alliance formelle. De même, dans la nouvelle alliance en Christ, c'est Jésus lui-même qui s'offre. Voilà. C'est d'abord lui qui se donne dans la nouvelle alliance. C'est de façon perpétuelle. Dieu a fait une alliance perpétuelle avec Abraham et sa descendance, il ne reviendra pas dessus. Et Jésus est le médiateur d'une alliance éternelle, perpétuelle en son sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, c'est ce qu'on dit quand le prêtre célèbre la messe et qu'il prend le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. L'appel à la foi en la bonté de la parole de Dieu. Abraham est appelé à croire en la parole de Dieu. De même, Jésus appelle les Juifs et les païens à croire en la parole de salut. Souvent, Jésus dit, dans les guérisons par exemple, il dit « ta foi t'a sauvé ». Un rapport entre la foi et le salut et la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Rappelez-vous, la foi d'Abraham, elle n'est pas simplement une simple adhésion à l'intelligence, mais c'est aussi un acte de volonté qui s'engage pour faire ce que Dieu demande. Et Dieu avait demandé à Abraham de quitter son pays, sa famille, pour répondre à l'appel de Dieu. De même, Jésus appellera ses disciples à quitter des choses pour le suivre. Et puis, on a dit qu'Abraham est appelé ami de Dieu. Jésus dira à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis. » Donc, nous aussi, on est appelé à rentrer dans une amitié avec Jésus, comme Abraham était l'ami de Dieu. Voilà. Alors, j'ai conscience que c'est un petit peu difficile, ça peut paraître un petit peu lointain, mais voilà. Le cœur, ce que j'ai expliqué, puis la raison de l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est la question de la foi. L'enjeu vraiment, c'est de, pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est de grandir dans la foi. Et en particulier, quand on n'a pas de signe de la présence de Dieu. Vous voyez, ou un signe, voilà. Quand Abraham, encore une fois, voit les étoiles, c'est un signe sympathique, mais ça ne lui donne pas d'enfant tout de suite, quoi. L'enjeu pour nous, c'est de grandir dans la foi, c'est-à-dire dans la certitude que Dieu agit, qu'il parle, qu'il nous conduit, et qu'il nous conduit à travers un peuple de croyants, voilà, à la suite d'Abraham. Dieu est bon. Pas si il y a des questions, peut-être pas. Encore une fois, si vous avez le sentiment de ne pas tout comprendre, c'est normal. Ne inquiétez pas, nous on met du temps. Moi-même, j'ai redécouvert ces choses-là il y a quelques années, alors que je suis chrétien depuis nombreuses années.
Tu nous as dit que du coup, la foi, c'est une décision qui dépasse une expérience sensible. Mais est-ce qu'elle est nécessairement, elle vient forcément d'une expérience sensible à laquelle on puisse se raccrocher dans nos souvenirs pour réactualiser notre décision de foi?
Alors, je ne dirais pas qu'elle vient toujours d'une expérience sensible, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment Dieu nous a conduits. On peut demander à l'Esprit-Saint de comprendre avec, par notre intelligence, hein, d'être éclairé dans notre intelligence, sur la façon dont Dieu nous a conduits. Parfois, c'est une expérience sensible, vous êtes dans une chapelle, vous êtes saisi, il y en a parmi nous qui ont fait l'expérience, vous mettez une bougie, puis tout d'un coup, paf, vous êtes saisi par l'amour de Dieu, vous dites, oh, c'est incroyable, je ne savais pas que Dieu m'aimait. Une espèce d'ouverture intérieure du cœur, complètement donnée, voilà, bon. Parfois, ça passe par des relations, des rencontres qui nous font avancer, ou des lectures, voilà. Donc, les moyens par lesquels l'Esprit-Saint va ouvrir notre esprit à la certitude qu'on est aimé par Dieu sont multiples. Hein. Il y a des médiations, il y a des moyens différents. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment Dieu nous a conduits et nous conduit les uns les autres par des chemins différents. Je pense aussi que Dieu tient compte de nos tempéraments, de nos constructions. Il y en a qui sont très intellectuels, ils ont besoin d'avoir une espèce de perception de la cohérence des choses, quoi, intellectuellement. Parfois, cette recherche intellectuelle, elle bloque, et Dieu leur parle autrement. Il y en a parmi nous qui ont été enseignés en songe, voilà, directement, et le songe, c'est par définition le moment où notre intelligence rationnelle ne peut pas s'exercer si on dort la nuit, voilà, mais il y a une lumière intérieure, une image qui nous marque. Bon. Je ne sais pas si je réponds à la question.
Là, dans ce que tu décris, à chaque fois, il y a quand même une expérience au départ à laquelle on puisse se rattacher pour redécider notre foi, y compris quand on ressent rien.
Oui, et c'est bon effectivement de pouvoir faire mémoire de moments qui ont été fondateurs, qui peuvent avoir des formes différentes. J'ai fait une rencontre, j'ai vu que ça produisait des choses bonnes en moi, j'ai entendu une page d'évangile, paf, elle a sonné, et puis je me dis, ah, c'est pour moi, ça m'éclaire. Donc il y a des moments fondateurs, comme des pierres sur notre chemin, hein. Et ça, c'est très important d'en faire mémoire. Et le conseil qu'on vous donne, d'ailleurs, c'est de noter, d'écrire les étapes importantes, les rencontres importantes, les événements importants de votre histoire. Parce que Dieu agit dans notre histoire et que si vous avez des pierres sur votre chemin, des éléments importants qui vous ont conduit jusqu'ici aujourd'hui, merci, hein, Clément, c'est très important d'en faire mémoire. Parce qu'effectivement, il y aura des passages à vide où, dans le fond, est-ce que je me suis trompé, est-ce que j'ai imaginé, est-ce que... Bon, puis il y a des moments où c'est plus aride, où notre détermination, elle doit se jouer, hein, cet espace de liberté que je disais. J'ai un de mes amis qui travaillait en addictologie et qui me disait, l'intérêt de la religion, je crois que j'ai déjà dit, je ne sais plus, c'est qu'elle n'est pas addictive, c'est-à-dire qu'elle laisse de la liberté. Dieu ne nous met pas la main dessus. Mais du coup, effectivement, dans ces espaces qui sont parfois plus difficiles, de faire mémoire des étapes de notre chemin, c'est évidemment très important. Si on lit des récits d'alliance, c'est aussi parce que Abraham a fait mémoire des étapes par lesquelles Dieu l'a conduit et a transmis sa propre expérience à d'autres. Hein. C'est très intéressant, ça. C'est le propre de tous les récits bibliques. La plupart, c'est que c'est des récits d'expériences qui ont été transmis parce que les personnes elles-mêmes ont appris à en faire mémoire. Et que c'est très beau d'ailleurs. Nos petits groupes de partage, c'est des lieux où on se dit comment Dieu nous a conduits les uns les autres pendant la semaine ou pendant le mois pour qu'on apprenne à en faire mémoire et à en témoigner et s'édifier ainsi les uns les autres. La raison pour laquelle on a besoin d'être ensemble, parce que je pense qu'on a besoin de s'encourager dans la relecture de ce que Dieu fait dans nos vies. Ça va ? Je coupe mon bazar.